Bonjour, Raymond Richard au micro. Et bien, pour cette émission témoin, je reçois, mais par son livre, Bernard Sesbouet, qui a commis un ouvrage qui s'appelle « L'Église et la liberté ». Dans les pages, il nous explique comment la théologie de la liberté dans l'histoire de l'Église a été importante, comment l'Église a été pédagogue de la liberté chrétienne, avec aussi comment, aux différentes époques, Moyen-Âge, temps moderne, l'Église a poursuivi ce travail pour faire accoucher à la liberté, avec bien sûr l'objection de l'esclavage et de l'inquisition qui ne manifestaient pas vraisemblablement des moments de liberté. Mais je vais directement à la conclusion. J'ai cru, en commençant ce travail, que j'étudiais surtout des sujets du passé et que je me plongeais dans des problèmes qui étaient désormais loin de nous, et donc loin de l'Église. Malgré ses faiblesses et son péché, en était définitivement sortie cette Église. Plus j'avançais dans ma recherche, plus je m'apercevais qu'il n'en était rien. Et l'occasion de cette prise de conscience qu'il explique, il nous dit « Je me suis cassé un bras qui m'a valu 2 mois d'hôpital. Les aides-soignants étaient des noirs ou des noires, des femmes, fort attentionnées d'ailleurs dans leur comportement pour les soins qu'ils avaient à donner, tandis que les infirmières et bien entendu les médecins étaient tous des blancs. Cette ségrégation discrète et pacifique, en l'occurrence, me fit réfléchir au fait qu'elle pouvait être élargie à une grande partie de la population noire en France. Nombreux métiers, travaux les plus fatigants, les plus lourds et les plus sales, sont assurés par des noirs. Ramassage des ordures, nettoyage divers, construction. On a l'impression que beaucoup d'entre nous font tout pour les éviter à titre personnel. Une nouvelle forme de ségrégation se constitue ainsi sous nos yeux. Ces noirs, ajoute-t-il, sont pour la plupart des migrants. Ceux que nous rencontrons dans les travaux ont déjà trouvé un emploi stable, ce qui est une belle réussite en vue de leur intégration dans notre société. Mais tous n'y arrivent pas et ont du mal à sortir d'un chômage dégradant. Puis sa réflexion va plus loin. Et il nous dit « Nous devons penser aussi à tous les risques encourus par ces hommes et ces femmes pour pouvoir en arriver là. Danger de la mer sur des embarcations fragiles qui peuvent les lâcher en route et les condamner à la noyade. » Alors on sait que la Méditerranée a été le cercueil d'un certain nombre de migrants, mais que maintenant aussi l'Atlantique, lorsqu'ils viennent des côtes du Sénégal ou de Gambie par l'Atlantique. Climat de l'accueil par les habitants des pays qui les reçoivent, peu bienveillants, parfois franchement hostiles. Attente interminable devant les bureaux qui doivent traiter leur cas. Incertitude du logement, quête de travail, problème des enfants à l'école. Donc, il nous partage sa réflexion sur cette réalité. Et puis, il va plus loin. La permanence de la réalité migratoire et des abus qui l'accompagnent, plus largement que l'esclavage qui sévit aujourd'hui partout dans le monde, le drame des innombrables migrations, en particulier entre l'Afrique et l'Europe. Sans doute, ces migrants ne sont plus formellement des esclaves, mais leur sort est-il enviable et leur liberté est-elle quelque chose de réel? Parce que pourquoi sont-ils partis, n'est-ce pas? Il s'agit pour eux de quitter leur propre pays, que celui-ci soit traversé par des combats sans fin, où les chances de pouvoir gagner la vie sont pratiquement nulles. Ils doivent rassembler le peu qu'ils ont pour payer leur voyage et s'embarquent au péril de leur vie. Beaucoup d'entre eux périssent en mer. Une fois arrivés en Europe, ils doivent subir les difficiles procédures d'un accueil généralement réticent et limité. Les plus heureux, qui arrivent avec le temps à s'intégrer et à obtenir un travail, sont occupés le plus souvent à des tâches subalternes. On les retrouve largement représentés dans les travaux de force, Et puis, pensons au cas de ces multiples jeunes filles dont les patrons français ont confisqué les papiers, qui vivent pratiquement enfermées dans un appartement sans pouvoir sortir de la rue. N'est-ce pas là un cas de néo-esclavage? Et il continue. Tournons le bouton de la télévision ou de la radio pour que nous soient présentés des faits inadmissibles. Un marché aux esclaves qui fonctionne à ciel ouvert. Une cellule mafieuse qui cherche en Afrique des candidats trop naïfs. Au départ, leur faisant moyennant finance des promesses mirobolantes. Voyage assuré jusqu'en France, travail promis dès l'arrivée. Et puis quelquefois, c'est la soi-disant prise en charge par une organisation anonyme qui prostitue. Donc, des situations qui semblent aujourd'hui sans issue. Le père Sesboué évoque, on parle de 232 millions de personnes en situation de migration dans le monde. Notre avenir en sera modifié. Devant cette situation, notre réaction spontanée après un moment d'émotion bienveillante est sans doute de vouloir écarter la chose comme un fait marginal. Et il dit, égoïsme inconscient de lui-même, immense oubli des autres. La migration des populations est un phénomène aussi ancien que l'histoire, puisque l'Europe a été faite par le jeu complexe des migrations. Les temps récents, avec deux guerres mondiales, ont multiplié les personnes déplacées. Je saute un passage. L'absence de tout avenir est aussi une des grandes causes de la migration. Ces migrants économiques sont moins bien vus par les organisations européennes parce que jugés plus responsables. Mais que fait la société internationale pour les attacher à leur terre? Et n'oublions pas aussi que parfois ils sont expulsés de leur terre. Alors le père Sesboué pose la question, mais que faisons-nous? Nous avons sans doute un regard bienveillant, mais que faisons-nous de concret pour porter aide en vérité? Non pas une aide superficielle, mais une aide structurelle qui s'élève jusqu'à prendre acte de cette nouvelle question sociale. Car c'est bien une nouvelle question sociale que nous sommes confrontés, non plus à l'échelle nationale, mais à l'échelle mondiale qui est devenue la nôtre. Et il pose la question. Pouvons-nous, en Europe, en France aussi, nous enfermer dans notre privilège géographique? Nous avons reçu en partage un continent privilégié par son climat. Et nous devons penser au fait que la crise écologique vers laquelle nous allons va rendre certains pays africains quasi inhabitables en raison de la chaleur. Aux raisons politiques et géographiques de la migration va donc s'ajouter la raison écologique. Nos pays sont privilégiés par la richesse de leur culture, celle-ci entendue dans tous les sens du mot, culture des produits nécessaires à la vie, culture littéraire, morale, spirituelle. Nos privilèges sont immenses. Nous n'avons pas le droit de les monopoliser devant les besoins criants de nos frères. Le père Sesboué aussi évoque la responsabilité européenne en disant et en rappelant cette phrase « L'Europe ne peut pas gérer toute la misère du monde », a-t-on dit. Cela est vrai. Les pays d'où les migrants sont originaires ont aussi leur part de responsabilité. Pour ne considérer que la situation européenne, nous sommes devant un problème que nous ne percevons pas pour sa gravité. Revenons, nous propose-t-il, à la comparaison entre les siècles de l'esclavage et notre situation. Les migrants d'aujourd'hui ne sont plus des esclaves. Leurs personnes sont internationalement reconnues. Ils ont une réelle liberté pour aller où bon leur semble, en principe. Mais concrètement, le sort de beaucoup d'entre eux ne reste-t-il pas semblable à celui de leurs prédécesseurs? Alors il propose un certain nombre de choses possibles et il propose aussi l'éclairage de la perspective chrétienne. Faisons un saut donc. Il rappelle de proche en proche des propositions de changement de structure qui devraient aboutir à une conversion radicale des systèmes financiers internationaux. Pose la question, est-ce utopie ? Mais en tout cas, c'est pourtant dans ce sens que va l'exhortation du pape François dans son encyclique Laudato Si. Faisons un saut de 2000 ans et allons voir du côté de l'Évangile et de la Bible. La migration, on le sait, appartient au récit fondateur de notre foi. Abraham, premier païen à devenir juif grâce à l'alliance et à la circoncision, était à l'origine un Araméen errant à qui Dieu avait demandé de quitter son pays, la maison de son père, pour aller vers le pays que je t'indiquerai. C'est ainsi que sa tribu arriva en Canaan d'abord, puis en Égypte. Faisons encore un saut. Après 400 ans de séjour, Moïse sera celui qui conduira finalement le peuple à travers un long périple migratoire pour aller vers la terre promise. Et du côté de l'Évangile, le Nouveau Testament n'est pas en reste sur le sort des exilés. Au départ, nous contemplons Jésus naissant au terme d'un long voyage dans une mangeoire à Bethléem. Jésus inaugure ainsi une vie de sans domicile fixe. Il vit dans la dépendance de ceux qui veulent bien l'accueillir. Le groupe des femmes qui le suivent veille à son intendance. Il est à la fois celui qui prêche l'hospitalité et qui en vit. Il nous invite à honorer les pauvres. De la prédication des béatitudes à la scène du jugement dernier, Jésus s'identifie à tous ceux qui vivent dans les besoins les plus élémentaires et aux marges de la société. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade, vous m'avez visité. En prison, vous êtes venu à moi. Tout être qui est dans la nécessité, en particulier l'étranger expatrié, est une figure du Christ. Et le père Sesboué propose, en conclusion, puisque le temps de l'émission s'achève lui aussi, ce à quoi nous invite la grande crise migratoire actuelle, c'est à une véritable conversion du sens que nous avons de notre foi. Avons-nous oublié que notre demeure ici-bas n'est qu'un passage ? Bref, que nous sommes par condition humaine des migrants. Alors, en ces temps de Noël, où nous accueillons Jésus dans la crèche, eh bien, je crois que ce témoignage de Bernard Sesboué est tout à fait intéressant et à sa place. Je rappelle, Bernard Sesboué, l'Église et la liberté. Bonne semaine à tous, au revoir.